Oui, l'inspirée de faits réels, elle est inspirée d'une équipe de journalistes du magazine de la santé qui était partie il y a quelques années dans cet hôpital de Souleymanié, au Kurdistan irakien, suivre une équipe de médecins sans frontières qui était allée là-bas pour aider un petit peu leurs confrères à améliorer encore leur prise en charge des grands brûlés, parce qu'ils soignaient malheureusement beaucoup de grands brûlés, des enfants qui avaient sauté sur des mines et puis des femmes voilà, victimes d'accidents domestiques et bien souvent de crimes d'honneur. Et mes journalistes m'ont rapporté un document de 26 minutes qui m'avait totalement bouleversée. En dehors du côté très médical de l'histoire, ce qui m'avait bouleversée, c'était ces femmes qui sont restées dans ma mémoire, des femmes qui étaient défigurées complètement dans une souffrance psychologique et physique insoutenable et qui gardaient, malgré tout, dans le peu qui restait du regard, elles gardaient une force, elles gardaient une dignité, une noblesse exceptionnelle. Et moi, c'était resté quelque part. Je m'étais dit, si un jour je peux rendre hommage à ces femmes, je le ferai, parce qu'elles sont totalement oubliées, elles sont niées, elles n'existent pas. Et voilà. Et quand j'ai voulu écrire ce premier roman, je me suis dit, mais c'est évidemment d'une femme comme ça qu'il faut que je parle.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappée dans ce roman, c'est que les femmes, on les voit victimes de mariages arrangés, de viols, de violences physiques, de violences psychologiques, mais en même temps, elles gardent une force, une dignité. Et puis finalement, elles ont peut-être plus de pouvoir qu'on ne l'imagine ici, justement, vu d'Occident.
Et je crois que malgré tout, c'est par ces femmes que ça passe, que beaucoup de choses passent. D'abord, c'est elles qui transmettent aux enfants, c'est elles qui tiennent toute la famille, enfin qui tiennent la maison. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent chez ces femmes, même si elles n'ont pas de liberté, même si effectivement elles n'ont pas le droit de faire un pas de côté et qu'elles sont jugées et condamnées dès qu'elles font un pas de côté. Mais quand on voit dans les pays où ces femmes accèdent à l'éducation, on leur donne le droit de pouvoir faire des études, on voit à quel point elles émergent, à quel point elles ont du pouvoir. C'est impressionnant. Ces femmes n'attendent que ça, simplement de pouvoir avoir enfin un petit peu le droit d'être aussi cultivées et d'être au même niveau que les hommes. Mais elles vont exploser dans les pays aujourd'hui où elles accèdent aux études. C'est impressionnant. Mais oui, ces femmes-là sont fortes. Et moi, j'ai des images de ce tournage où il y avait une de ces femmes comme ça qui sortit de l'hôpital alors qu'elle était complètement défigurée, allée au mariage d'une de ses cousines. Donc toutes les femmes étaient belles dans des tenues qui étaient magnifiques. Et cette femme-là qui avait le visage complètement caché par une tenue magnifique, mais qu'elle cachait au maximum. Il n'y avait que les yeux qui sortaient de là, les yeux qui malgré tout étaient brûlés. Elle était plus digne encore que toutes les autres. Avec tout ce qu'elle avait traversé, elle avait encore conforté sa force et sa noblesse. Moi, j'étais hallucinée.
Je crois que la brûlure, c'est une des blessures les plus douloureuses à vivre. Et puis, c'est une blessure qui reste à jamais. Les séquelles restent à jamais. Donc, en brûlant ces femmes, on leur inflige une douleur et une peine à vie. C'est vraiment ça?
C'est vraiment ça. On les marque. Mais on les marque comme on marquait les chevaux, comme on marquait les esclaves. C'est exactement ça. Il y a cette notion, et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de ces crimes d'honneur se passent par la brûlure, que quel que soit le moyen, que ce soit du vitriol, de l'acide ou du feu. L'idée, c'est de les marquer. C'est-à-dire qu'elles ne puissent jamais redevenir celles qu'elles étaient avant, qu'elles payent toutes leur vie, le crime qu'elles ont soi-disant commis, plus jamais elles ne seront les mêmes. Et c'est ça le pire de ces crimes-là, quand ces femmes survivent, hein, parce que beaucoup meurent de leur brûlure. Mais c'est vraiment qu'elles payent physiquement, qu'elles payent psychologiquement, et qu'elles ne puissent jamais se réintégrer dans la société, qu'elles ne puissent pas retrouver une autre vie, ou retrouver simplement leur place dans la société, que leurs enfants aient peur de leur visage, que leur mari ne puisse plus les aimer. Voilà, c'est tout ça qu'elles payent, et c'est innommable.
Alors, dans cet hôpital, on l'a dit, on s'occupe de grands brûlés, souvent des femmes qui ont été victimes d'accidents domestiques, mais ces accidents domestiques, bien souvent, ils cachent des crimes d'honneur. Alors finalement, l'honneur, c'est un attribut masculin, mais les crimes d'honneur sont perpétrés par les hommes sur les femmes qui sont victimes toujours de cet honneur. L'honneur, finalement, c'est un sentiment qui permet d'avoir encore plus de contrôle sur les femmes.
Mais c'est inimaginable d'avoir mis ce nom de crime d'honneur, de se dire qu'au nom de quel honneur, le fait de refuser un mari qu'on vous a destiné, le fait d'avoir éventuellement une tenue qui n'est pas parfaitement adéquate, le voile qui n'est pas parfaitement placé, d'avoir regardé un homme. Au nom de ça, des hommes, parfois des femmes, parce qu'il y a parfois effectivement les belles-mères, s'arrogent le droit de détruire une vie, de défigurer une femme, parce que la dignité de la famille serait atteinte. Mais c'est absolument inimaginable. Et ce qui est doublement inimaginable, ce sont ces crimes d'honneur et le fait que dans beaucoup de pays où ça se produit, la justice est du côté des agresseurs. Il n'y a pas de condamnation des agresseurs. Et voilà, il y a des pays où les jeunes filles violées sont obligées d'épouser leur violeur, où elles se pendent parce que non seulement elles ont été salies, elles ont été abîmées, mais en plus elles porteront les stigmates de cette agression. Et en plus, personne ne les reconnaîtra. Elles sont détruites à jamais. C'est des doubles peines que vivent ces femmes. Au nom de quoi? Au nom de qui a le droit de s'arroger ce droit-là?
C'est la justice des hommes.
C'est la justice des hommes et c'est un déni de justice.
La brûlure, je crois que c'est aussi un sujet qui vous touche peut-être plus particulièrement. Je crois que vous avez eu un accident où vous avez dû endurer ce genre de blessure.
Oui, je n'ai pas réalisé en fait quand je l'ai écrit. C'est très curieux parce que pourtant, Je garde les stigmates de ces brûlures. J'ai été brûlée à un degré bien moindre dans mon accident, mais ce qui fait que j'ai connu les douleurs, en tout cas, et psychologiques et physiques des brûlures. Et puis parce que ça m'était arrivé, d'abord j'ai été soignée dans un service de brûlés, je suis liée d'amitié à l'homme qui m'a soignée, le professeur Wasserman, qui était un des premiers brûlologues français. Et régulièrement, je retournais dans son service et il m'emmenait visiter à chaque fois son service de grands brûlés. Et à chaque fois, j'ai été marquée par ce qui se passe dans ses services, par le côté inhumain de ses blessures, par les silences, par les odeurs, par tout ce qui se passe dans ses services. C'est quelque chose d'extrêmement marquant et d'extrêmement frappant. Je crois que ça m'a, oui, marquée à vie, bien sûr, mais quand on a été brûlé, on est marqué à vie. Mais ces visites dans les services de grands brûlés m'ont laissé une marque très forte. Mais je ne l'ai pas réalisé en l'écrivant, en fait. Que tout ça, tous ces souvenirs, toutes ces émotions qui ressortaient venaient de mon passé. Et en fait, c'est ma sœur qui me l'a dit quand elle l'a lu. Elle m'a dit mais si tu te souviens quand même que tu as été brûlée, alors que j'y pense tous les jours, bien sûr, je le sais. Et ben, ça m'a pas frappée quand je l'ai écrit. Je pense que c'était vraiment l'inconscient bien profond.